réplique Penser l'écologie avec Catherine Larère et Michel Deguy. Les philosophes ont seulement interprété le monde de diverses manières. Ce qui compte, c'est de le transformer, écrivait Marx en 1845 dans ses thèses sur Feuerbach. Et cette proposition a fasciné des générations entières. Nous sommes en 2016 et je me demande si, avec la crise écologique, le temps n'est pas venu pour nous de sortir de cette fascination. À mes deux invités, les philosophes Catherine Larère et Michel Deguy, je voudrais donc soumettre une contre-proposition, celle qu'a formulée Karel Kosík, le grand penseur du printemps de Prague. Je cite « L'époque ordonne sauver le monde, et le salut du monde peut se réaliser uniquement en tant que changement de paradigme, c'est-à-dire en tant que changement de rapport fondamental et fondateur que les gens entretiennent avec ce qui est, y compris leur propre moi. » Êtes-vous d'accord avec la thèse de Kosík, Catherine Larère?
Bonjour. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec l'idée d'un changement de paradigme. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il faut sauver le monde. Ce qui me semble inscrire l'écologie dans une généalogie religieuse qui a effectivement été la sienne. Je rappelle que Henry David Thoreau disait « In wildness, the preservation of the world », dans le sauvage et le salut du monde. Donc effectivement, cette généalogie existe. Je ne pense pas que ce soit la bonne. Je pense que nous n'avons pas à sauver le monde. Je pense que nous avons à vivre et à apprendre à vivre dans un monde que nous n'avons pas fait, mais que nous avons largement transformé. Cependant, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut sortir de la fascination pour la phrase de Marx, et pour la bonne raison que pendant longtemps, et c'est ce que voulait dire Marx, on a pensé que cette transformation du monde, c'était une révolution politique, et de plus en plus, cette transformation du monde, c'est un changement technique. J'ai entendu un chimiste de l'université de Stanford qui n'avait certainement pas lu, enfin je pense pas, qu'il avait lu Marx et qui expliquait que la chimie maintenant n'expliquait plus le monde mais le transformait. Donc je crois que le problème il est là aussi.
Oui, donc la chimie transforme le monde et notre rôle est-il d'accompagner cette transformation ou au contraire de savoir y mettre des limites, peut-être pour sauver quelque chose, Catherine Larère.
Je pense que c'est de la reprendre en main, de savoir l'orienter. Il ne s'agit pas de rejeter toute technique. Nous sommes une espèce technicienne, et nous ne sommes pas d'ailleurs la seule espèce animale à être une espèce technicienne. Donc on ne peut pas s'en passer complètement. Ce qui ne me plaît pas dans sauver, c'est que sauver, ça se fait en un instant. Or, nous devons nous inscrire dans le temps.
Michel Deguy.
Moi, je suis au fond fondamentalement d'accord avec les deux. Je pense que on n'a jamais fait autre chose que d'interpréter et transformer à la fois. Les philosophes pré-Marx ont également, évoquons Platon dans différentes tentatives, ou Aristote, ont transformé le monde de toute façon. Alors, quant à la parole de Kosík, je la reprends absolument à mon compte. S'agit-il de sauver... D'abord, il s'est toujours s'agit de sauver le monde. Personne n'a rien eu d'autre dans la tête, sans parler des sauveurs religieux. Je prendrai les exemples plus volontiers dans la poésie récemment, si vous voulez.
Il n'est pas de sauveur suprême.
Il s'agit de sauver le monde. Les hommes ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'autre monde. Comment faire pour gagner l'autre monde? Alors, en général, c'est l'esprit religieux qui, et on le voit en ce moment de différentes façons, qui dit voilà comment vous allez gagner l'autre monde. Où est l'autre monde? Qu'est-ce que l'autre monde? Altermondialisation, mondialisation, l'autre monde. Et pour parler, alors je m'appuie plutôt ce matin sur des poètes, au fond, les paroles de Rimbaud qui sont toujours citées, qui ont de grandes influences sur la jeunesse, il s'agit toujours de chercher la vraie vie présente. Donc la question c'est quand et où sommes-nous? Si... la vraie vie doit être présente, c'est ça, sauver le monde. La vraie vie doit être présente. Au passage, et un peu comme ça, confusément au début, Je dirais que l'écologie n'est en rien une religion, pas du tout. Elle est philosophique et poétique. Religion. On a voulu la diffamer d'une certaine manière en la reliant à des religions, à un esprit religieux. On a sorti Gaïa, la déesse mère. Gaïa, elle était aussi là d'ailleurs chez Heidegger, pas seulement chez ceux qui accusent de religion carrément. Donc, si vous voulez, pour reprendre en simplifiant, il s'agit de transformer le monde. Quel autre monde voulons-nous maintenant? Vous avez fait une allusion à la science. Bien entendu, ce qui est en cours, je ne l'appelle pas seulement des modifications, c'est une mutation formidable et sans aucun précédent qui menace spécialement tout ce qui est et qui fait que nous nous intéressons à l'écologie.
Oui, mais alors, attendez, là, Michel Deguy, vous parlez d'altermondialisme. Mais précisément, l'écologie a cette idée d'alternative n'oppose-t-elle pas un principe de sauvegarde plutôt qu'un autre monde? Faire attention à ce monde-ci. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans un de vos livres, la défense de l'environnement n'a rien à voir avec la tâche qu'exigerait la sauvegarde du monde. Donc là, il s'agit de ce monde-ci, ce monde dont nous avons hérité et dont nous pouvons penser qu'il est menacé et que nous devons faire en sorte de le préserver, de le conserver. D'ailleurs, Catherine Larrère, vous rappelez dans votre livre que écologiste est la traduction de conservationniste. Donc, si tel est le cas, on n'est pas du tout dans la perspective d'une alternative, mais bien plutôt dans celle de la préservation de quelque chose qui est déjà là et dont nous nous rendons compte que c'est une réalité de plus en plus fragile. Michel Deguy.
Il s'est toujours agi de l'autre monde, ça c'est ça qu'il faut bien admettre. Et donc l'altermondialisation, comme son nom l'indique, est dans la perspective d'une mondialisation qui se veut un changement de monde, un autre monde que l'autre monde de la mondialisation, qui lui-même propose aux hommes un autre monde que l'autre monde qu'ils ont toujours cherché, dans la dimension, on va dire, spirituelle, religieuse. Alors, là, il faut partir de là, c'est-à-dire la menace extraordinaire. C'est pour ça que j'ai dit mutation. Il s'agit bien de savoir, d'une certaine manière, même comme tout le monde le répète, c'est d'une certaine manière déjà trop tard. Autrement dit, nous avons passé un certain seuil, on peut parler d'anthropocénique, la mutation a eu lieu. Comment faire pour, alors à la fois, c'est pas une question de sauvegarde, qu'est-ce qui est à sauver? Tout est perdu, d'une certaine manière. Donc il faut transformer les choses de manière à ce que, par une résilience, une résistance, ce à quoi nous tenons, donc il faut s'entendre là-dessus, peut être conservé, ça veut dire amélioré et transformé. J'insiste beaucoup sur la transformation, parce que ça, il ne s'agit jamais au fond d'une conservation ou d'une régression qui retrouverait les choses à la même. C'est pas un retour à la nature, même si de nature il est encore question, ce qu'il faudra regarder de près. Il n'est pas question d'un retour à la nature. Quelle que soit l'agitation biologique avec tous les fantasmes de retour à qui sont partout, Dieu sait si la régression est en action dans ce monde à tous les étages, mais il s'agit justement d'une certaine transformation qui détacherait peut-être, par exemple, imaginons, qui détacherait peut-être la croissance du travail, des choses comme ça. Alors, protection, un mot encore là-dessus. Je pense que l'écologie est une chose trop sérieuse pour être confiée et remise à ceux qu'on appelle les écologistes.
Ah, alors là, voilà, on s'en doute, d'accord. Catherine Larrère, et on en parlera.
Oui, non, je crois que personne ici, enfin, ni Michel Deguy, ni moi-même, n'allons défendre l'idée qu'il s'agit de conserver, de préserver, de maintenir, tout simplement parce que ce qui est change et que on va pas geler, empêcher un mouvement. Donc ça, on est d'accord. Je crois qu'on est aussi d'accord sur le fait que, comme on dit parfois, il n'y a pas de planète B. Il n'y a pas autre chose que la Terre, et que bon, ça fait partie des idées à la fois fausses et dangereuses de penser qu'on va aller sur d'autres planètes. Mais ce qu'il faut montrer, moi, ce qui me paraît important, c'est de montrer qu'il y a des possibles. C'est-à-dire que le risque sur les questions écologiques, c'est qu'on pense que la menace, c'est la diminution des possibles, c'est le fait qu'il n'y a plus d'alternatives. Or, je crois, moi, je maintiens que l'écologie, c'est au contraire de découvrir qu'il y a des possibles, que nous pouvons habiter le monde et un monde dans lequel il y a encore différentes choses à faire.
Mais pourquoi, Catherine Larrère, le mot conserver vous fait-il si peur ?
Peur, non.
L'héritage, non, si vous voulez, il y a peut-être une question à se poser. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on élimine et qu'est-ce qu'on change? Mais après tout, la civilisation, c'est aussi une forme de transmission. Donc si nous vivions dans un état de changement permanent, de métamorphose continue, on ne transmettrait plus rien. Un professeur, par exemple, ben, il est là pour garder quelque chose. S'il enseigne la littérature, il peut pas dire « j'enseigne le changement permanent ». S'il enseigne Racine, il enseigne Racine. Et Racine est là. Et nous pensons que Racine est là pour durer, me semble-t-il. Pour durer de génération en génération. Donc, même cette phrase, de génération en génération, elle signifie quand même quelque chose. Une forme de persévérance. Et, il y a que du mouvement. Ben non. Fort heureusement. La civilisation
on
fait qui?
On pourrait citer Héraclite.
Fait en sorte qu'il n'y ait pas que du mouvement.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de geler un état de la nature à un moment donné. Il s'agit de faire en sorte que des processus se continuent. C'est ça. Alors, les questions de protection de la nature, on peut discuter de savoir est-ce qu'il faut appeler ça protection ou pas. Les questions de protection de la nature sont pas... Il y a d'autres questions que celles-là. Mais il ne s'agit pas de dire tel ça a été, tel ça demeurera. Justement, transmettre, c'est permettre qu'une évolution se continue.
D'accord, j'ai mieux compris. Michel Deguy.
Je ferai une remarque préliminaire. Il faut faire extrêmement attention à toute la terminologie de la chose. Nous remarquons que le terme le plus employé par les politiques, par les écologistes eux-mêmes et les autres, c'est le terme de planète. À mon sens, je vais m'expliquer un instant là-dessus, c'est une très grave erreur. La planète, en tant que bolide cosmique qui roule depuis quelques milliards d'années, va rouler encore quelques milliards d'années, la planète, d'une certaine manière, se moque complètement de ce que nous pouvons faire. Bon, alors, d'une certaine manière, je dirais, il ne s'agit pas de la planète. De quoi s'agit-il? À mon avis, il ne s'agit pas non plus, je cherche à tâtonner dans l'ancien pays, de l'environnement. L'environnement, Umgebung, Umwelt, ce sont des mots où je parle un peu, je jette les mots allemands parce que ça vient de là, comme nous le savons, les éthologues, et puis ensuite Hans Jonas et beaucoup d'autres.
Ça vient beaucoup des Anglais.
Mais Hans Jonas ne parle pas d'environnement.
C'est très important.
Hans Jonas ne parle pas d'environnement.
Je ne sais plus de quoi il parle.
Mais il parle de la Terre.
Oui, la Terre, c'est ça. Alors, je veux venir à la Terre, mais voilà. C'est très important d'écarter les choses. Non, l'environnement, on en parle depuis Huxkull, par exemple. Bon. Et d'ailleurs, Heidegger aussi, car la différence importante, c'est le monde et l'environnement. Le monde n'est pas l'environnement. L'environnement, c'est les animaux. Vous sortez un poisson de l'eau, il meurt. Vous mettez un oiseau dans l'eau, il meurt, etc. L'homme est le maître de la nature, on a créé un moment, on peut changer les mots, en tant qu'il est maître des environnements, et s'imagine que le monde n'est que la somme des environnements dont il maîtrise tous les aspects, pouvant monter à 10 000 km, descendre, etc. Et par conséquent, il serait, en étant le maître des environnements, le maître de tout le monde. Mais le monde n'est pas l'environnement. Alors c'est la question difficile, au fond, c'est qu'est-ce que c'est que ça, le monde? Donc, sur cette lancée, je dirais, la Terre, qu'est-ce que c'est que la Terre? La Terre des hommes, nourriture terrestre, la Terre, c'est ce qu'il s'agit d'une certaine manière. Alors, est-ce qu'on peut dire de sauver? Oui. Enfin, de distinguer la Terre et le monde, là, il s'agit essentiellement de la relation monde-Terre. Augustin Berg emploie un mot comme œcumène, qui désigne cette relation. Quel monde voulons-nous, donc, avec quelle Terre et sur quelle Terre, hein? Alors, la planète, j'ajoute encore un mot, c'est important, parce que peut-être qu'en parlant de planète tout le temps, au lieu de parler de Terre et de monde, c'est le signe que c'est déjà justement tard. Car la planète, c'est la vue que l'on prend sur cette Terre quand on est extraterrestre. Justement, d'où est-ce que c'est une planète? C'est quand on est en dehors de la Terre. Or, les deux manières qui menacent, je pense qu'on peut manier ce terme très souvent, qui menacent gravement, c'est même au-delà de la menace, qui menacent la Terre, sont la déterrestration et l'extraterrestration. Alors, la déterrestration, c'est, si vous voulez, c'est la dévastation. Parce que moi, je parle, et je pense vous aussi, dans une, au fond, un accablement fantastique. Un accablement inouï, c'est là-dessus qu'il faut voir. Oui, si je regarde comment partout, en ce bas monde, à tout instant, on va dire, la scarification, la torréfication, la dévastation de la Terre. C'est pourquoi d'ailleurs à la fin je dis, finalement s'il y a dévastation, quel serait le vaste? Et c'est un mot, une chose qu'il faut chercher pour voir dans quelle mesure on peut opérer une... Enfin, résister, si vous voulez. Mais extraterrestration, c'est le point de vue que je prends quand je suis dans en dehors de ce que nous appelons le monde, peut-être dans le cosmos, et que je regarde cette Terre, alors je l'appelle planète. Mais ce n'est pas la planète qu'on veut conserver, qui serait un point de vue d'extraterrestration. C'est la Terre. Qu'est-ce que la Terre? C'est-à-dire, qu'est-ce que le rapport Terre-monde? Et qu'est-ce que nous voulons exactement
sauver?
Je veux bien dire sauver, mais conserver, pour moi, c'est la même chose. Vous comprenez? Conserver, oui. C'est transformer. Nous avons des reliques. Quelles sont ces reliques? On ne va pas être les reliquaires des reliques. Voilà. Le relique existe. La translation des reliques, la translation des Sud-Rome. Alors, Racine, comment l'enseigner, le faire entendre aujourd'hui, lui? Alors là, on va arriver bientôt dans le langage, c'est extrêmement important, puis qui n'a de rapport avec disons, je ne vais pas chercher l'être tout de suite, mais enfin, disons, avec... Non, c'est très important, l'être. Qu'y a-t-il, l'être? Mais disons avec le monde que dans le langage. Hein. Au fond, la beauté et l'être sont ensemble, par et dans le langage, pour dire des choses un peu... C'est dans ce sens-là, et j'ajoute encore un mot pour vous indiquer ma pente, si vous voulez, c'est une pente poétique dans un sens très profond, poético-philosophique, qui peut s'attacher à quelque chose comme une résistance à la mutation en cours, mutation qui est, si vous écoutez La Tour ou des gens comme ça, qui est beaucoup, et vos chimistes, beaucoup, beaucoup plus engagée qu'on ne croit. Car il s'agit, de quoi s'agit-il finalement? Il s'agit d'échapper à la mort, c'est-à-dire d'échapper à... Ou je prends aussi un mot de Primo Levi que j'aime tellement, la recherche et le fatum de l'humanité. La recherche et le fatum de l'humanité. Il y a quelques jours, on voyait la Silicon Valley vous prépare l'immortalité. Bon, alors, c'est ça le changement.
Catherine Arrière.
Oui, alors, bon, je dirais que je suis d'accord sur la différence entre planète et Terre, et j'irai dans votre sens en rappelant que l'image de la Terre, la planète bleue qui a tellement ému le monde, et donc qui est la Terre vue de l'espace, et qui a servi de ralliement à la... Appelons ça l'écologie. Et en fait, une photo prise d'une mission Apollo, c'est-à-dire véritablement d'une mission de conquête de l'espace. Donc c'est une image extrêmement ambiguë. Donc effectivement, à parler de la planète, on continue une ambition de l'humanité qui me paraît tout à fait critiquable. Ce qui me paraît aussi important dans ce que vous dites, c'est le rapport entre Terre et monde. Et ça, je crois... qu'il y a là un point philosophique effectivement très important, c'est-à-dire que toute une tradition philosophique a pensé le monde à part de la Terre, a posé que le monde était l'affaire de l'humain et que la Terre était l'affaire de l'animalité. Et la question de l'écologie, c'est de dire qu'il faut penser les deux ensemble. Et ça me paraît extrêmement important.
Et c'est là peut-être qu'on peut introduire Hans Jonas, justement, et son livre absolument fondateur, Le principe responsabilité, parce qu'en effet, les éthiques traditionnelles tenaient pour acquis l'invulnérabilité et l'immuabilité de la nature, ou peut-être de la terre. Donc, l'éthique pouvait se centrer sur l'interhumain, le monde c'était l'interhumain, mais à partir du moment où le pouvoir et le savoir de la technologie affecte l'ordre cosmique, autrefois tenu pour constant, eh bien à ce moment-là, on peut dire que la Terre tombe dans le champ de la responsabilité humaine, de même que la vie, puisque la technologie actuelle, avec cette promesse d'immortalité, justement, ne cesse d'altérer la condition naturelle de l'être humain. Donc, l'espèce humaine elle-même tombe dans le champ de la responsabilité. L'écologie, est-ce que c'est pas ça, quand même? Une extension presque démesurée face à notre démesure du champ de la responsabilité, puisque la fragilité a changé de camp. La fragilité, maintenant, c'est la nature qui est fragile.
Mais dans votre phrase, Alain, vous dites écologie pour dire l'encre. Contraire de l'écologie. L'écologie, de quoi est-ce qu'elle se préserve? C'est pas grave. De quoi elle s'occupe? Oikos, logos. Oikos, la demeure, la maison. Est-ce que cette terre est une demeure? Baudelaire disait, quand il allait mourir, le monde m'est devenu inhabitable. Alors là, à l'arrière-plan, il y a tout le fond romantique dont il faut se méfier extraordinairement. non pas du tout l'abandonner, c'est-à-dire le rapport demeurer, habiter, penser, dans un rapport avec un type d'habitation humaine, la hutte fameuse, je ne sais quoi, habitation. On pourrait se demander, est-ce que c'est la maison qui est le comparant pour la terre ou l'inverse, ou est-ce que c'est la terre qui est le bon comparant pour la maison ? J'utilise beaucoup le terme de comparant. Tout à l'heure, j'ai failli vous répondre dans cette direction quand vous avez parlé, si tant qu'aussi, de paradigme. Changement de paradigme, c'est fondamental. Et j'ajoute, moi, le changement de paradigme est un changement de comparant, très très souvent. Alors, quel comparant choisissons-nous ? Bref, tout commence quand même, et là, je ne sais pas si on est d'accord, par le sentiment accablant, accablé, d'une menace, pourquoi pas, d'un danger terrifiant. Enfin, on pourrait commencer ici à énumérer tout ce qui est de dévastation en route sur la Terre à tout instant, y compris la pollution à Pékin, y compris le Bornéo qui brûle, y compris la dévastation. La dévastation, c'est une chose absolument en train et qui ne s'accomplit pas seulement sous cette forme, disons, visible de dévastation des fleuves par les incendies, etc., qui va dans le sens de la dévastation. J'entends par là aussi le changement de l'humanité. Alors, on a parlé de vie, par exemple. Voilà, vie ou nature, c'est très important, parce qu'actuellement, disons par exemple, la technique, mot heideggerien, mais qu'il faut prendre complètement au sérieux, quand Primo Levi dit recherche, il dit strictement la même chose. Quand Günther Anders parle de la machine, de l'obsolescence de l'homme, il parle strictement la même chose. C'est-à-dire ce changement qui affecte tout ce qui était, non seulement tous les prédicats, mais peut-être tout l'être, l'identité de l'homme, sur laquelle nous ne savons plus. Enfin, nous sommes éperdus à cet égard. Et ça, c'est une menace. En tous les cas, alors, je me demande souvent si c'est un effet de l'âge. Et après tout, ouais, on vieillit, on dit « oh là là, ça va mal ». Non, je pense pas. Je pense que c'est le ravage, et les mots ne sont jamais assez forts. Et j'y mets le géocide, et je mets le génocide dans le géocide ou avec lui. C'est-à-dire qu'il y a une dévastation en cours prodigieuse, et il s'agit vraiment d'une déterrestration.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ces mots-là, Catherine Larrère ?
Parleriez-vous complètement...
vous-même alors, de dévastation disons,
oui, pourquoi
de
pas.
La Terre et du monde à l'âge technique pour...
Alors, ce dont je parlerai, effectivement, on pourrait passer toute l'émission à faire toute la liste de tous les dégâts causés par la négligence humaine, l'incapacité à tenir compte des conséquences de ce qu'on fait. Ce que je voudrais aussi bien à ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est remettre justement la différence entre la planète et la Terre. Parce que quand vous dites, avec Jonas, la Terre tombe dans la responsabilité humaine. Non, parce qu'on n'a pas la possibilité de détruire complètement la planète et que sortir du romantisme, c'est sortir effectivement de cette démesure. Jonas le dit lui-même, hein, nous sommes dans une position, en gros dans la position de Dieu. Mais non, nous ne sommes pas Dieu. Et donc, il faut à la fois savoir tout le mal que nous faisons et savoir que ce mal n'est pas infini. Et donc, rétablir, quand je dis la Terre et le monde, moi ça me paraît important parce que ça veut dire qu'on ne va pas parler uniquement de l'homme, on va parler de l'homme et d'un grand nombre de vivants, végétaux, animaux, qu'il met aussi en danger. Et donc ça suppose de parler autrement de l'humain et autrement de l'avenir de l'humain.
Alors je vais quand même essayer de justifier un peu le concept de Hans Jonas de principe responsabilité, qui devrait être, à mes yeux, le concept central d'une véritable politique écologique. Et Michel Deguy, vous avez dit, il est dommage que l'écologie soit tombée aux mains des écologistes. Je voudrais moi-même illustrer ce propos, vous me direz si vous êtes d'accord, parce que les écologistes, aujourd'hui, ne parlent que le langage des droits. L'extension.
Qui sont les écologistes ? Faudrait
peut-être préciser. Les écologistes politiques. La politique écologiste, je ne sais pas, elle voulait des noms. Cécile Duflo, Daniel Cohn-Bendit, Noël Mamère. Bon, les écologistes, quoi. Parce que il s'agit, par exemple, de libéraliser le cannabis, d'autoriser la gestation pour autrui. Et quand un écologiste s'inquiète justement de cette technique procréative, eh bien, comme José Bové, il se fait taper sur les droits. L'ouverture des frontières, la distinction même du citoyen et de l'étranger apparaissant comme une insulte aux droits de l'homme. Or, est-ce que
cette idée d'une extension illimitée des droits est compatible avec ce que nous impose l'écologie face à la dévastation actuelle, c'est-à-dire au moins de poser des limites, sinon d'assumer la responsabilité de tout l'être. Si conversion existentielle il doit y avoir, si un changement de paradigme s'impose, c'est précisément parce que l'homme se rend compte qu'il n'est pas exclusivement un titulaire de droit, que un autre comportement est exigé de lui. Ce dont les écologistes, me semble-t-il, n'ont pas véritablement conscience.
Alors, je pense, si nous parlons des écologistes politiques, je pense qu'ils ne sont pas à la hauteur de la situation. D'abord, ils sont forcément, en tant que parti, forcément restreints à une nation, les intérêts immédiats, Madame Ségolène Royal, Monsieur Mélenchon, qui est peut-être le seul écologiste de politique de ce pays, parce qu'il voit, lui, l'empire maritime, etc. Non, mais l'écologiste qui pense, qui admoneste tous ses concitoyens en vue d'une préservation de l'environnement, mettez vos sacs poubelles à droite et pas à gauche, n'est simplement pas à la mesure de la question. Pas du tout à la mesure. C'est une autre affaire, j'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas d'environnement. Un être environnementaliste, et par ailleurs chercher à prendre une petite place dans un gouvernement, ça n'est pas à la hauteur de la question, simplement. D'autre part, et contrairement à ce que vient de dire Alain, je tiens que des gens comme Nicolas Hulot sont tout à fait... on voit de quoi il s'agit, parce que Nicolas Hulot dit qu'une seule chose... C'est beaucoup trop tard, il va falloir faire des choses inouïes, parce que le péril arrive, et dans un an, dans deux ans, le fameux climat, le réchauffement climatique, qui n'est lui-même qu'une métonymie pour toute la chose. Réchauffement climatique, bien entendu. C'est une manière de dire le feu prend, l'incendie prend. Quant à moi, Claude Bendit, je l'aime énormément, parce que c'est la gaieté. Non, c'est très important. Nos écologistes sont plus sinistres, sans arrêt bagarreurs entre eux, se réduisent. Non, alors...
Il me semble quand même, Michel Deguy, moi je suis tout à fait d'accord, il y a cette gouaille, il y a ce côté espiègle chez Daniel Cohn-Bendit.
C'est le rapport, le bon rapport.
Depuis le début, il y a là sa photo face aux policiers à la Sorbonne, c'est l'introduction de l'espièglerie dans la révolte. Mais est-ce que la gaieté dont vous parlez est tout à fait à la hauteur de la dévastation que vous soulignez par ailleurs. Si, comme le dit René Char, nous sommes plus près du sinistre que le toxin lui-même, vous
pouvez
pas me dire que la...
Un peu daté.
Vous venez d'illustrer oui, par vos propos. Oui. Donc, vous dites, au moins Cohn-Bendit, je l'aime bien à cause de sa gaieté, mais... Ça me paraît contradictoire avec votre accablement.
Alors ça, c'est ce rapport aussi à l'esprit poétique. Je pense que tout ça, y compris d'ailleurs les choses qu'on va dire sur la religion, doit tremper en même temps un fou rire ou un rire de fin du monde. Bien entendu, c'est très 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 important la gaieté, l'esprit de gaieté, l'esprit de joie.
Je suis entièrement d'accord.
Et c'est pas un rire de fin du monde, le rire des écolos.
Ah, peut-être que si aussi...
Alors, je sais pas si il y en a quelques-uns. Non, mais on peut être catastrophiste et pas forcément pleurer tous les jours.
Catastrophiste.
Mais d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a rire. Alors, je dirais les choses un peu autrement.
Ouais.
Je pense quand même que pour répondre à tous les défis dont vous parlez l'un et l'autre, il faut pouvoir poser des limites. C'est aussi ce que demande Nicolas Hulot. Commencer de résoudre les crises aiguës de notre temps. Or, notre époque, comme disait Ortega y Gasset, est celle du seniorito satisfait. Autrement dit, de l'enfant gâté. L'homme masse est un enfant gâté. Et il me semble qu'avec Internet, ça s'aggrave. Parce que toutes les start-up dont on nous le rebat les oreilles, dont on nous dit qu'elles sont formidables, qu'est-ce qu'elles font, ces start-up? Eh bien, elles nous rendent le monde encore plus accessible et plus disponible. Vous avez des locations d'hôtels quand vous voulez, où vous voulez. Donc, c'est une mise à disposition permanente de tout, et de plus en plus rapide, grâce à la multiplication des start-up. Donc, d'un côté, sur Internet, on vous dit le monde est à vous, faites-en ce que vous voulez, et de l'autre côté, on vous dit, agissez de manière responsable. Ces deux mots d'ordre me paraissent totalement contradictoires. Et on n'est pas prêt, je trouve, de transformer l'enfant gâté en être écologiquement responsable.
Alors moi, je dirais que l'enfant gâté, c'est un homme masculin et occidental.
Pourquoi masculin? J'en sais rien. Il y a des filles gâtées aussi.
Il y a des filles gâtées. Non, mais je veux dire, il faut aussi penser aux migrants et à l'ensemble, à l'énorme majorité des habitants de ce monde qui n'ont pas le monde à leur disposition et qui ne sont pas des enfants gâtés.
Non, mais c'est la promesse d'Internet, ça. Même oui. Si, et cette promesse, elle s'adresse à tout le monde, même si tout le monde ne peut pas, ne peut pas en jouir.
Fort peu peuvent. Je pense qu'un discours...
Oui, mais ça crée une mentalité, c'est ça que je veux dire. Oui, et une mentalité qui est contradictoire avec ce que l'époque exige de nous.
Je pense que cette mentalité, il y a aucune raison de pas la critiquer et il suffit pas de la critiquer, il faut développer la possibilité d'une autre vie. Et je suis d'accord avec vous que c'est une question de responsabilité et qui ne sépare pas. Je suis d'accord avec Michel de Guy sur la nécessité de ne pas séparer la terre et le monde. C'est-à-dire que le monde, actuellement, c'est le terrorisme, c'est les migrants, et la terre, c'est aussi le changement climatique, c'est-à-dire un certain nombre de gens dans les habitations, les gens qui vivent sur des îles, et des îles qui sont soit tellement salinisées, soit recouvertes. Et donc, articuler la terre et le monde, c'est apprendre à vivre dans un monde qui est de plus en plus difficile. Et ne pas se laisser prendre dans ce qui est quand même un peu une représentation très, très mythique qu'en quelques coups de clic d'ordinateur, on serait d'un bout à l'autre du monde. Le problème quand on voit le film d'Al Gore, qui est une bonne mise en évidence du changement climatique, c'est que ce qu'il y a derrière, c'est qu'il est en train de prendre l'avion sans arrêt. Donc il faut aussi apprendre à ne plus prendre l'avion.
Nous sommes d'accord.
À mon point de vue, les choses sont beaucoup plus graves que tout ça. Beaucoup, beaucoup plus graves. C'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire... Vous parlez, vous opposez, semble-t-il, tout à coup, une masse considérable.
Je ne pousse pas. Je dis la réalité du monde, c'est
attendez,
ça.
Attendez, vous n'avez pas, je ne savais pas encore ce que je veux dire que vous opposez. Vous opposez en distinguant une masse considérable de l'humanité, les 7, 8e, les 9, 10e probablement, et des nantis qui, eux, auraient accès seulement à ce que le monde, entendez ici, on peut changer le monde par technique, le monde tel qu'il va, le monde économique, le monde mondialisé leur propose. Je ne crois pas du tout ça. Je vais prendre un exemple très simple, et qui est lui-même d'ailleurs une proposition philosophique difficile à entendre. Les choses sont devenues des images. C'est-à-dire que toute chose est prise dans son devenir image, et les humains, quelque pauvre qu'il soit, dans quelque situation qu'il soit, n'ont de rapport avec les choses, les ci-devant choses, que dans leur image, c'est-à-dire par écran. Nous menons tous, petits, riches, grands, des vies screenisées. Alors, je vais plus loin, je dis la vraie vie est donc enfin présente. La vraie vie, je pars souvent là, vraiment, la vraie vie est absente, ça fait chanter. Pas du tout. Aujourd'hui, il faudrait dire, du point de vue poétique, où en sommes-nous avec Rimbaud, dernière fois. La vraie vie est présente. Elle est présente à l'écran. En effet, vous ouvrez, et vous n'avez pas besoin d'ouvrir, parce que c'est toujours ouvert, on vous dit, vous allez vivre en direct. C'est-à-dire que vous allez ne pas vivre, et le direct, c'est-à-dire la soustraction de la chose en question. Bref, vous avez les images. Leben das Auto, vivre l'auto. D'ailleurs, le remplacement du verbe voir par le verbe vivre dans toute la publicité dont il faudrait dire un mal terrifiant, qui fait sortir le jugement humain de la différence entre le vrai et le faux. C'est la publicité est une force de propagande à laquelle celle de Hitler était un enfantillage. C'est-à-dire les injonctions sur cette planète, qui sont les injonctions constamment, y compris par les jeux, pour les enfants, les injonctions. Enfin, c'est stupéfiant. Je trouve que dans l'ensemble, on ne mesure pas assez ici ce que l'on peut appeler le ravage ou la dévastation. Et j'aime beaucoup cette formule, j'y insiste. Le devenir image des choses. Par exemple, on ne dit pas « touchons un sujet brûlant ». On ne dit pas « vous portez atteinte à l'islam ». En Inde, on l'avait dit à Rushdie, vous avez porté atteinte à l'image de l'islam. Il s'agit, même l'ayatollah dernièrement a dit, en parlant aux persans, il a dit vous devez veiller à l'image de l'islam. C'est-à-dire ce qu'on montre de l'islam. Donc on ne sait rien d'autre de l'islam, sinon ce qu'on montre de l'islam. Qu'est-ce qu'on montre de l'islam ? Prosternation synchrone, kamikaze dans les rues. Donc si l'islam est l'image de l'islam, c'est proprement insupportable. C'est bien ce qui se passe. Donc, le devenir image des choses, je pourrais multiplier les exemples, alors que la poésie, pour le dire en un mot, est le devenir, est le retour aux choses et à image des choses, ou rapport image aux choses, dans un autre sens que le devenir screené existant, c'est tout ça qui est en cause, vous comprenez ? J'ajoute encore un mot au final, à cause de Godard. Tout ça, ce qui est en cause et qui a lieu, c'est la sortie du langage. Or, tout tenait, le monde, tout ce que la tradition nous parlons, tout tenait dans le langage. Que devient le langage, le dire des choses? Et tout à l'heure, j'ai dit être et beauté vont ensemble par le langage, par exemple le poème ou les grandes œuvres. Si vous sortez du langage, là aussi, il faudrait regarder les choses de très près, ce qui se passe avec l'angle. Je ne peux pas m'empêcher, dans la foulée, Alain, si vous le permettez, de faire attention à ces éléments de langage, euphémismes, délirants, qui empoisonnent la politique. J'en prends un qui vient dans la... Maintenant, il y a un stéréotype qui est passé dans le langage politique, c'est « vous n'avez pas vocation A ou vous avez vocation A ». Mais c'est affreux, ça. « Ah, mes amis, vous n'avez pas vocation à rester ici. » Ah bon, alors rentrez. Avoir vocation A, qui sert ces espèces... Donc, ces abîmements du langage, soit de globichasisation, soit des stéréotypes, ça, c'est publicitaire. C'est ça que j'appelle la déterrestration.
Non, mais je crois que le discours de la déploration est peut être mené. Je pense qu'il nous faut, et ça, je vais revenir, parce que je pense que votre idée de lier la Terre et le monde, réapprendre à vivre, réapprendre la réalité, réapprendre le rapport, et donc laisser un peu de côté une vision très, très publicitaire, effectivement, et repartons de la diversité des choses et là où les gens vivent.
Alors, cette vision publicitaire... Vous en parlez dans votre livre, Michel Deguy, dans plusieurs de vos livres, mais je vais citer un extrait de Réouverture après travaux. Le monde de rêve publicitaire est un monde puéril, magique, monomaniaque. La publicité s'acharne à détourner du monde pour halluciner une gourmandise féeriquement satisfaite, un tout chocolat. Un tout chocolat. Donc je suis pas sûr que la comparaison avec Hitler soit particulièrement éclairante, mais un tout chocolat... Ça me ramène à cette image que j'utilisais tout à l'heure de l'enfant gâté. Et là, je voudrais vous demander de réagir à une phrase devenue célèbre de Chaim Semprun, l'un et l'autre, dans l'abîme se repeuple. Voici ce qu'écrit Chaim Semprun. Quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?», il évite de poser cette autre question réellement inquiétante, dans cet univers publicitaire, précisément, à quels enfants allons-nous laisser le monde? Est-ce que c'est pas ça aussi le problème qui se pose dans à l'ère technique où la technique et l'enfance ont de plus en plus partie liée?
Pas seulement à l'ère technique, enfin, à quels enfants allons-nous laisser le monde? Moi, je pense au résultat de la politique démographique en Chine, qui a fait que c'est une population vieillissante, dans laquelle il n'y a plus que des enfants uniques. Alors, comme enfant gâté, je pense que c'est pas mal, les enfants uniques chinois. Et on peut se demander, effectivement, dans quelle mesure la politique qui a voulu prévenir une augmentation démographique trop forte n'est pas en train de faire des enfants à qui il va être difficile de laisser le monde. Et moi, je suis d'accord avec Semprun en ce sens que se projeter sur les générations futures, c'est une façon de ne pas regarder les problèmes en face d'aujourd'hui, maintenant.
Et vous, quelle réaction à quels enfants allons-nous laisser le monde?
Au passage, me rappelant que Lévi-Strauss avait estimé la bonne démographie terrestre humaine au XVIIIe siècle à quelques centaines de millions d'individus, et que donc si les Chinois ne sont qu'un milliard trois au lieu de 2,7 milliards, ça retarde un peu, car c'est évidemment ça aussi, la multitude, le pullulement des multitudes.
Pour
Lévi-Strauss, la question démographique, c'était la question écologique par excellence.
Bien, c'est la question écologique. Non, attendez un instant. Il faut tout prendre en même temps. Ce pullulement des multitudes, ça veut dire les errances sous les tonnerres climatiques. Ça veut dire les immigrés, ça veut dire les mouvements. Ça veut dire qu'au fond, l'identité est perdue aussi en ce sens qu'il ne reste plus que des populations, plus des peuples, qui errent en cherchant leur identité, on les comprend. Ils sont privés même, justement, d'un lieu, non pas d'une hutte ou je ne sais quoi, ils sont privés, mais donc on peut dire que la catastrophe de l'identité, aujourd'hui, aussi à cette forme de l'errance, qui ne sont plus des migrations comme on en connaissait, mais qui sont des errances projetées par les tsunamis ou les tyrans, ou ça. Et ça, c'est... Donc cette multitude de multitudes grouillantes qui chercherait, aimerait avoir une identité. Je suis syrien, je suis français, etc. C'est ça. Non, mais c'est encore une fois, moi j'aggrave toujours les choses pour entrer dans la question de l'écologie.
Non, mais je crois que entrer dans la question de l'écologie, c'est justement ne pas aggraver les choses. Et je pense que sur la question de la démographie, effectivement, le surgissement de la mondialisation écologique dans les années 1970, c'est la démographie. Ça a été une façon essentiellement aussi d'accuser les populations qu'on disait à ce moment-là, du tiers-monde, et puis qu'on dit maintenant du Sud, d'être responsable des choses. Or, ce que montre actuellement les démographes, c'est que ça va peut-être prendre un siècle, et un siècle, c'est beaucoup. Mais ça va pas continuer sans arrêt. On va sans doute, dans 100 ans, rentrer dans quelque chose qui sera complètement nouveau pour l'humanité, c'est-à-dire que c'est la première fois où on aura une démographie globale en baisse.
Oui, donc, mais ça, c'est comme le chômage de Hollande, vous êtes en train de nous dire. Ça va décroître. Pour le moment, il est prévu 20 milliards.
Je crois qu'on prend au sérieux les choses en ne... en ne tombant pas dans l'emphase. Pousser à la limite, là aussi, dans la limite, il y a aussi le passage à la limite. Passer à la limite de la catastrophe, c'est pas voir les problèmes tels qu'ils sont, et c'est se poser en figure de prophète dénonçant le malheur du monde. Il y en a suffisamment de malheurs. Je crois que c'est pas la peine d'en rajouter encore.
Et vous ne pensez pas, vous, donc, que l'expansion démographique est, comme le disait Claude Lévi-Strauss, le problème écologique par excellence? Parce que
c'est un des problèmes, c'est pas le problème écologique par excellence.
Il va y avoir 9 milliards d'habitants
sur la Terre. On ira sans doute jusqu'à 10 milliards.
Ben oui.
On n'ira sans doute pas plus loin.
Et est-ce que c'est pas déjà trop loin?
Il faut faire avec. Les agronomes disent qu'on peut les nourrir. Les agronomes disent qu'on peut les nourrir.
Surtout que ce ne sera plus les agronomes, mais les chimistes. La concassement des produits, la distribution des protéines, ça n'est justement pas les agronomes. C'est un autre monde sans agri.
Je rappellerai d'autre part
Catherine Arrière.
Que tous les humains ne pèsent pas du même poids écologique sur la Terre et que s'il y a des limites, c'est sans doute... des limites de la démographie, mais on sait ce qu'il faut pour que la population continue de croître. Il faut donner la liberté aux femmes et les éduquer. C'est le moyen. C'est comme ça que ça marche.
La suite, sans doute d'accord, mais
et d'autre
c'est
part,
pas vraiment vers ça qu'on va.
Le problème, c'est effectivement de la surconsommation d'un certain nombre de pays et des États-Unis. Et donc, le problème, il est là aussi. Donc, la démographie n'est pas le seul problème.
Non, alors, madame, à ce propos, quand même, je vous cite une chose.
Michel Deguy.
Le chef de l'Inde, dont à l'instant le nom m'échappe, recevant l'empereur des Chinois, dont à l'instant le nom m'échappe, ça se passait l'an dernier, soit 2 milliards 500 millions, a dit cette chose très simple. Nous, il n'est pas question que nous ne fixions pas comme idéal, comme mode de vie pour nos citoyens, un welfare state, une opulence, il n'a peut-être pas dit opulence, bref, un régime de vie qui est le vôtre en Occident. Donc le simple souhait d'un niveau de vie, comme on dit, un niveau de vie moyen, bas, normal, pour c'est pas sur représente déjà une surconsommation effrayante. Ça fait partie aussi. Il s'agit pas de se faire peur. Il s'agit pas de se faire peur. Il s'agit de voir ce qui se passe.
Mais si on vous peut pas, Michel Deguy, c'est difficile pour un occidental de reprocher à un homme des pays émergents, à un représentant des pays émergents, de vouloir
qu'il faire ces occidentaux. Ça s'appelle le partage. Et oui. Le partage, ça veut dire la redistribution. La redistribution, ça veut dire les impôts. Ça, tout ce que précisément tout le monde, qu'on appelle les gens, refuse.
Voilà. Donc il n'y a que des refus. On aurait pu citer Gandhi. Je crois que Gandhi a dit qu'il y avait place pour tout le monde dans le monde, mais pas pour tous les désirs, pour tous les besoins. Bon, on pourrait revenir.
Désirs, besoins, convoitises. Alors là, on va passer un bout de temps. Hein.
Bon, alors venons-en quand même. Vous avez fait référence tout à l'heure à la question du climat, Michel Deguy, parce que c'est une question concrète. La COP21 a eu lieu à Paris. Elle a réunit 20 000 délégués nationaux, 8 000 observateurs, 3 000 journalistes, il y a eu 2 500 réunions de travail, et cette COP21 pour Climate Organization Parties, 21e édition, donc, a débouché sur un accord. Et Nicolas Hulot, notamment, a beaucoup œuvré dans ce sens. Faut-il se féliciter de cet accord? Est-il à la mesure des problèmes que nous rencontrons? Peut-on parler d'une prise de conscience mondiale d'un phénomène qu'on ne dira pas planétaire, mais d'un phénomène qui concerne tous les hommes. Catherine Darrère.
Oui, il faut s'en féliciter. Il est extrêmement facile de dire c'est rien du tout, l'accord est vide, il n'est pas question. Je crois que le mot de pétrole n'y est pas, le mot d'énergie carbonée n'y est pas.
À cause de l'Arabie Saoudite, semble-t-il.
Notamment. Non, à cause du Sénat américain.
Ah oui, les deux.
Les deux. Donc, de ce point de vue-là, si on s'imagine que tout allait se résoudre au Bourget, bien sûr que non. Mais si on pense que ça a été fait et c'est important parce que ça rend d'autres choses possibles, c'est une bonne chose. Moi, je me suis retrouvée le lendemain de l'accord, le 13 décembre, à une émission à RFI où il y avait le représentant africain qui était très content de l'accord, du travail qu'ils avaient fait. Ils ne croyaient pas du tout que ça allait tout résoudre. Mais je pense qu'on peut se réjouir que 196 pays du monde aient trouvé un accord. Ça me paraît important.
Alors moi, je répondrais, Michel, je m'en félicite, tout le monde a bien travaillé. Deux, et je cite Nicolas Hulot, il est évident que ça n'est pas du tout à la mesure, il s'en fout, que par ailleurs, tout ce qui va se passer pour freiner ne fera qu'aggraver. Il est clair que ça n'est pas à la mesure, je cite Nicolas Hulot. Néanmoins, c'est très bien, continuons dans le comme si, mais continuons. Que faire d'autre ?
Mais alors, vous parliez d'altermondialisation. Oui. Vous dites que faire d'autre, Michel Le Guy.
Oui.
Y aurait-il... dans le monde tel qu'il est, avec la concurrence des États, la pression des populations pour le maintien du bien-être ou pour l'acquisition d'un certain bien-être, y a-t-il possibilité de faire autre chose ou de faire autrement ? Personne ne peut souhaiter l'établissement d'une dictature mondiale.
Il y a la possibilité.
Alors il y aurait quoi,
il y a la possibilité, mais elle ne sera jamais utilisée. Disons, nous sommes le système de consommation-croissance et a pour moteur le néo. C'est le fond de la publicité, le fond de la consommation, c'est j'ai un rasoir 4 lames, c'est pas mal, mais c'est moins bien qu'un rasoir 5 lames. Et donc, je vous annonce pour un rasoir 5 lames, qui est totalement inutile. Donc le néo, c'était la publicité, engage l'accélération de la fabrication, etc. C'est tout le système du capital qui fait de l'argent. Comment voulez-vous qu'une conversion à l'échelle de toutes les nations soit une conversion qu'on pourrait dire finalement anti-capitaliste et qui revienne à un mode de vie que les autres appelaient bonne vie ou vie heureuse, qui fasse, d'ailleurs, sur la fin de notre émission, je profite pour rappeler, de lecture des œuvres, d'intelligence formée, de distinction entre l'intelligence artificielle qui compte, et la pensée qui juge, car c'est là aussi, il ne s'agit pas de QI, les QI se multiplient magnifiquement, il s'agit de jugement et de pensée, c'est-à-dire de penser, la pensée parle.
Ah oui, donc ce serait ça l'alternative.
Oui, mais je ne pense pas. C'est ça l'alternative, mais il est évident que ça n'aura pas lieu. Car il faudrait convertir comme pendant... N'oublions pas que pendant 2000 ans, toutes les religions ont dit « Nous allons convertissez-vous et vous changerez de mentalité et donc le bonheur sera là ». Il n'est pas question de convertir l'humanité actuelle à un renoncement à un mode de vie qui est fondé sur, on va dire, le néo. La néoïsation, y compris dans le langage. Le néologisme.
Car... On est bien d'accord.
Vous n'êtes pas d'accord, bien entendu, mais c'est ce que je pense.
Convertir un autre mode de vie que celui du néo.
Mais
alors, bien justement. Il n'y a pas une alternative, il y a 1000 alternatives.
Ah bon, allez-y. Donnez-nous-en quelques-unes.
Je crois que c'est ça qui compte. C'est-à-dire, tant qu'on reste à l'idée d'une alternative, on s'en tient à une pensée purement globale, c'est-à-dire à la pensée de nos autres occidentaux. Modèle de toutes les pensées. Or, nous sommes en train de sortir de cette occidentalisation. Et il y a 1000 alternatives en Amérique du Sud, en Afrique. Il y a 1000 autres façons de vivre. Et ce qui est triste, c'est que notre mode de vie soit devenu la référence universelle.
Mais alors, vous êtes en train de vous contredire. Vous dites qu'il y a des alternatives et elle devient la référence universelle. Peut-être aussi, si elle devient la référence universelle, cela demande-t-il de notre part je ne sais pas, peut-être une conversion ou une réappropriation, ou une réappropriation, comme vous dites. Et d'ailleurs, s'il faut sortir du néo, eh bien, ça remet au goût du jour ce mot que j'ai essayé d'employer tout à l'heure, de préservation, de conservation. Ne pas jeter tout de suite son rasoir. Ne pas jeter, c'est ça la conservation. Non, mais bien sûr. Mais ne pas jeter, c'est ça aussi la conservation, non ?
Oui, pourquoi pas ? Effectivement, le problème, c'est pas simplement de recycler les choses qu'on jette, c'est de jeter moins, ça c'est sûr. Et là, c'est un autre mode de vie.
Mais c'est pas conserver, Alain, il faut transformer. C'est le problème. Toute la culture, par exemple, aboutit à ce qu'on peut appeler des restes. Alors les restes, l'utilisation des restes, c'est ce qu'on appelle le culturel aujourd'hui. Le recyclage, la consommation. Disons, on est sorti d'une époque où on disait faisons table rase du passé. À une époque, c'est pour ça que la révolution, de toute façon, est à jamais perdue, où il s'agit de conserver, de stocker, de miniaturiser et de stocker tout pour toujours et tout. Ça s'appelle patrimonialisation. Il n'est plus question de table rase, il n'est plus question d'effacer les traces. Poème de Brecht commentant... Non, poème de Walter Benjamin. Tout stocké. Et c'est ça qui... Et donc, il n'y a pas les mille façons dont vous parlez, parce que l'occidentalisation, on peut l'appeler comme ça, c'est cette manière de voir, règne absolument partout.
Je suis pas d'accord.
Y compris dans le virtuel État islamique qui ne marche que par les grands appareils de virtualisation. Hein. J'insiste quand même, je dis une citation, je suis tombé dernièrement, il s'agit de tuer pour faire des images. Et ça me ramènerait à mon histoire. On tue pour faire des images. Et en ce moment, on est en train d'agir. C'est ça qui est un changement fabuleux. Et vous n'aurez pas mille manières de vous en tirer.
Il y en a mille. Souvenons-nous de Robert Jolin, de la paix blanche dans les années 70. On pensait que toutes les formes de vie autochtone, locale, allaient disparaître. Elles ont résisté.
On a encore assassiné dans le nord du Canada par deux positions dans une classe américaine. C'est fait.
Alors c'est fait et elles ont résisté. Voilà, nous terminerons sur ce désaccord. Alors je voudrais renvoyer Michel Deguy à votre livre écologique au pluriel, publié aux éditions Hermann. Et Catherine Larère, vous avez écrit avec Raphaël Larère « Penser et agir avec la nature » aux éditions La Découverte. Les références bibliographiques se trouvent sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. Je voulais dire aussi que la semaine dernière, j'ai dit, et c'était approximatif, que Condorcet avait été guillotiné. Ah non, c'est vrai, il a été arrêté à Clamart le 27 mars 1794. Le lendemain, on l'a retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Bourg-l'Égalité, Bourg-la-Reine. Suicide ou empoisonnement, on ne sait pas. Ce qu'on sait quand même, c'est que ce philosophe des Lumières, en quelque sorte, devançait l'appel. Il était condamné à mort par la révolution devenue terreur comme ennemi de Jean-Jacques Rousseau. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Les enjeux éthiques dans la culture populaire » et mes invités seront Sandra Logier et Frédéric Lechter-Flack. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, Russie et Turquie, l'interminable affrontement avec Marie-Pierre Rey.